C'est le temps de la parole et je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à chercher sur vos smartphones dans l'Évangile, non pas dans l'Évangile, dans la première lettre de Jean. Nous faisons une lecture suivie et là nous sommes au chapitre 2 de 1 Jean, 1 Jean 2. Liam, il faut chuchoter. Et on va lire à partir du verset 15. Avant de lire la parole, je vous invite à prier avec moi pour chercher l'inspiration de Dieu. Nous allons lire tes Écritures saintes, Seigneur. Écritures que tu as conduites par ton esprit, tu as suscité des prophètes, des auteurs. Tu as demandé à tes témoins de coucher sur papier, Seigneur, ce que tu leur révélais. Et nous, aujourd'hui, nous puisons dans ces écritures pour comprendre qui tu es, comprendre quelle est notre vocation, notre mission, ce que tu attends de nous, puis te découvrir toi dans ton caractère. Seigneur, que tu nous inspires, que tu nous disposes à une écoute honnête, sincère, et moi que tu guides mes mots. Amen. On continue d'explorer donc cet épître de Jean. Je vous rappelle brièvement le contexte. Jean écrit à plusieurs églises dont il est l'évêque, l'épiscope. Et dans ces églises, en fait, sévit une nouvelle façon de penser la foi chrétienne qui va être qualifiée plus tard d'hérésie parce que, en fait, dans cette nouvelle façon de penser la foi chrétienne, on dit que Jésus ne s'est pas incarné, que Dieu n'est pas réellement devenu humain, mais qu'il a fait semblant, il s'est déguisé pour avoir l'air gentil, mais que réellement il n'est pas devenu un humain, né de Marie. Je développe pas, mais ça bouleverse de beaucoup de façons en fait notre espérance, notre relation à Dieu et notre relation à nous-mêmes, à notre corps, à la vie. Et Jean, à travers ses lettres, condamne fermement cette fausse doctrine et encourage les chrétiens à rester attachés à ce qu'ils ont reçu. Et il répartit dans sa lettre plusieurs tests, plusieurs types d'épreuves, de tests pour vérifier que nous marchons dans la lumière, que nous sommes sur le chemin. Et le premier test qu'il a proposé de vivre dans les versets qu'on a lus un peu avant, il y a 2 semaines, c'était le test de l'amour. Celui qui aime demeure dans la lumière de Dieu. Là, il reprend sur ce thème, on va lire à partir du verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Un tout petit passage, mais qui est déjà très, très dense. Pas besoin d'en mettre des tartines pour en prêcher, hein. Ne pas aimer le monde, mais demeurer dans l'amour du Père. C'est une opposition qu'on connaît bien, les chrétiens, l'opposition entre, quelque part, le royaume des hommes et le royaume de Dieu. Entre ce qu'on va appeler la chair et l'esprit, ou ce qu'on va appeler le monde et Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce monde pour nous? Alors, d'un point de vue intérieur, effectivement, le monde va se manifester en nous par diverses formes de convoitises. La convoitise, c'est voilà, c'est vouloir de manière tellement forte que quelque part, on met ça au top de notre hiérarchie. Il me faut ceci. Si je n'ai pas ceci, une télé, un ordinateur, de l'argent, une relation amoureuse ou un diplôme, si je n'ai pas ça, je ne serai pas heureux. Donc je réfléchis ma vie de sorte que ça me rendra heureux. Et si je ne l'ai pas, je serai malheureux. Parfois, je vois avec mes enfants, ils demandent quelque chose, et en fait, si je leur refuse cette chose, ils s'assoient et puis ils sont malheureux. Et alors, on peut leur proposer tout ce qu'on veut, il n'y a rien qui peut les satisfaire. Et pas parce que ça ne touche pas leur cœur, mais plus parce qu'ils ont décidé que de toute façon, s'ils n'ont pas ça, ils seront malheureux. Et ils s'enferment quelque part dans quelque chose. Et alors là, quand on est parents, il faut être soit très créatif, soit ben, laisser tomber et puis les laisser explorer cette petite prison dans laquelle ils se mettent tout seuls. La convoitise de la chair. Alors, convoitise de la chair, faut pas croire que c'est uniquement des choses de l'ordre du physique, de la sexualité ou des choses comme ça. Non, non. La chair, c'est ce qui n'est pas l'esprit. Donc, c'est la convoitise qui est motivée par le péché, en fait. La convoitise des yeux. Autrement dit, ce que les autres ont, hein, ce qu'on, cette jalousie, ce que, ah, lui, il a ça, ah, la publicité, tout ça. Et l'orgueil de la vie. Alors là, le mot grec exactement pour vie, c'est bios. Ça peut vouloir dire, et ça correspondrait un peu plus au contexte, les biens matériels, dans le sens tout ce dont j'ai besoin pour vivre, mon nécessaire pour vivre. Toutes ces choses ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. En fait, on pourrait résumer ce que Jean est en train de dire par Jésus qui a dit, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, celui qui la perd à cause de moi la sauvera. Nous avons tous au fond de nous cette impulsion, cette envie, ce désir de construire notre sécurité, de pouvoir prévoir ce qui va se passer demain et après-demain, et pourquoi pas même dans un an. Nous avons tous envie de créer un cadre autour de nous, sûr, prévisible, prédictible, parce que nous aspirons à la paix. Personne n'aime vivre dans une incertitude et une insécurité totale. Personne n'aime vivre une vie où on ne peut rien construire de fiable. Mais ce que le Seigneur nous montre dans ses paroles, c'est que nous n'avons pas le droit de construire cette sécurité à tout prix. À tout prix. Nous n'avons pas le droit. Parce que si je cherche à construire cette sécurité pour moi et les miens à tout prix, je vais tricher. Et je vais voler. Et je vais dominer. Et je vais m'imposer. Et ainsi de suite. Et moi qui suis le disciple du Dieu qui rend libre, du Dieu juste, du Dieu qui, on l'a vu dans le psaume, se soucie des immigrés, se soucie des veuves, se soucie des orphelins. En fait, pour construire ce cadre sécurisé, je n'en aurais cure. Je n'aurais rien à faire des orphelins et des veuves et des immigrés et des pauvres. Je peux travailler à vivre cette sécurité, mais je ne peux pas le faire à tout prix. Sinon, en fait, je cherche à sauver ma vie et alors je la perdrai. Mais celui qui la perd à cause de moi, dit Jésus, celui-là la retrouvera. Nous ne pouvons pas plonger dans l'amour du monde et être un disciple de Jésus, mais en tant que disciple de Jésus, nous sommes appelés à nous plonger dans l'amour de Dieu, qui curieusement nous offre une autre sécurité. C'est heureux qu'Alain Marc il ait témoigné parce que ça me donne vraiment une bonne illustration pour montrer quelle est cette autre sécurité que Dieu nous donne. Elle est étrange. Parce qu'il a dit, il est passé par la souffrance et Dieu l'a visité presque physiquement puisqu'il sentait sa main là. Et ce Dieu qui le visite s'engage à traverser la souffrance avec lui. mais pas à lui enlever la souffrance. Quel drôle de sécurité. Quel drôle de sécurité. Alors que nous, nous nous projetons pour construire une vie qui va nous protéger de la souffrance. Et lui nous propose une sécurité étrange où il nous dit, je viens avec toi de sorte que tu vas réussir à traverser la souffrance. Pour prendre une autre métaphore, vous embarquez dans un bateau et si Christ vient avec vous, sa présence n'enlèvera pas la tempête. Sa présence vous assurera d'arriver de l'autre côté, de traverser vivant. Quelle drôle d'assurance! Quelle drôle d'assurance! Le Seigneur ne cherche pas à nous éviter les épreuves. Le Seigneur cherche à nous faire traverser les épreuves. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dit le psaume, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me conduisent. Ça veut bien dire que je traverse une vallée d'ombre et de mort. Ça veut bien dire que je passe une épreuve, que je suis dans la peur, que ma vie est menacée. Mais Dieu dit, je te mène d'un bout à l'autre de la vallée et tu ressortiras de la vallée. Est-ce qu'on est prêt? Moi, pour moi, c'est une question difficile. Mon moi idéal va dire oui, mon moi réel peut-être sera plus hésitant. Est-ce qu'on est prêt à troquer quelque part ces constructions qu'on se fait de sécurité contre celles-là? Je vais garder ta vie. Je vais garder ta vie, ton âme. Tu vas traverser et tu ressortiras grandi, plus sage. Oui, tu auras pris des coups. Oui, tu auras souffert. Oui, tu auras connu la peur. Oui, tu auras connu. Et tu... Est-ce que j'ai envie? Il y a des sagesses comme ça, des maturités, des profondeurs. De la vie que Dieu nous donne à travers des épreuves. On hésite à les vouloir, à les désirer. Presque quelque part, heureusement que ce n'est pas à nous de le décider, parce qu'on ne saurait pas trop comment payer ou pas ce prix-là. En tout cas, je ne vous bercerai pas d'illusions en vous disant que l'amour de Dieu, l'amour du Père, aimer Dieu plutôt que le monde, c'est la voie de la paix et de l'absence de souffrance et de l'absence de conflit. C'est faux. Mais c'est une voie sûre, sûre dans le sens que vous arriverez de l'autre côté avec lui. Vous arriverez de l'autre côté avec lui. Quel que soit cet autre côté. À la marque, au moment de passer sur le billard, allait arriver de l'autre côté, ne sachant pas si cet autre côté, ça serait de se retrouver dans les cieux avec le Seigneur pour l'éternité, parce qu'il serait mort, ou cet autre côté, ce serait de se réveiller toujours avec Dieu, et d'avoir simplement traversé l'opération en vie. Et Jean de nous expliquer que vivre pour le monde, c'est vivre un instant, c'est vivre pour un temps. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Demeure éternellement. Nous sommes appelés à faire un choix d'une vie qui a un sens pour toujours ou d'une vie qui simplement, à court terme, un court terme humain, ça peut être 60 ans, 50 ans, 60 ans, aura du sens, mais qui après n'aura plus aucun. Je voulais déjà illustrer ainsi en disant, si vous saviez demain, par exemple, que l'euro allait perdre toute valeur et que il faudrait investir dans la monnaie chinoise, le yuan, je crois, eh ben, est-ce que vous garderiez vos euros? Ou est-ce que vous investiriez dès maintenant avant que l'euro s'effondre dans une monnaie plus forte? Les valeurs du monde vont s'effondrer. Pas vous dire quand, mais je sais qu'elles vont s'effondrer parce qu'un jour le Christ va venir et va installer son royaume. Et les valeurs du royaume de Dieu, elles, demeureront éternellement. La justice, la vérité, la confiance, l'amour, la loyauté, la paix, le pardon, le partage, la joie. Elles dureront éternellement. Et elles seront installées, nouveaux cieux, nouvelle terre, pour toujours. Par la foi, nous voulons apprendre à vivre dès maintenant ces valeurs, même si elles nous confrontent au monde, même si ça frotte avec ce monde, même si elles nous font passer pour des perdants dans ce monde ou des naïfs, en sachant que nous serons une source de bénédiction pour toutes celles et ceux qui nous écouteront, qui nous croiront, qui nous recevront, qui nous accueilleront. Après la première épreuve que Jean nous propose, aimer son frère, aimer sa sœur, puisque nous aimons Dieu, il nous en propose une deuxième, ne pas aimer le monde, mais aimer le Père et aimer tout ce qui vient de Dieu, le royaume. Alors parfois on peut se dire, bon, c'est pas facile de ne pas aimer le monde, on ne sait pas, il y a des tas de trucs qui sont chouettes dans le monde quand même, des choses que les humains ont créées et qui sont chouettes. Des médecins qui s'occupent des malades, de la police qui parfois protège les gens, des instituteurs qui transmettent leur savoir, et puis des beautés, des jardins, des parcs, de la musique, des instruments. Est-ce que tout ça, je dois le rejeter? Il ne s'agit pas tant des choses que de pourquoi nous les faisons, pourquoi nous les désirons. Pourquoi nous les consommons et pourquoi nous les faisons. Il ne s'agit pas ici de quoi. Il s'agit d'une question plus profonde que l'Esprit Saint en vous va vous aider à creuser toutes et tous. C'est la question du sens. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi je veux les choses? Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je dis comme ça? Le sens. Et c'est là, dans cette question du sens que vous donnez à votre vie, que Dieu veut vous orienter et vous guider sur un chemin de lumière. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et le Seigneur est là pour vous guider. Il vous a déjà placé sur ce chemin par son esprit qui est en vous. Cherchez auprès de lui l'inspiration pour le prochain pas. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte. Et nous prenons le temps de prier maintenant, la prière d'intercession, avant de recevoir l'exhortation et de chanter un dernier cantique. Prions. Seigneur, tu nous appelles à marcher dans ce chemin de lumière, à vivre pour et par le Père. Et nous voulons assumer cette mission que tu nous as donnée, d'être tes témoins sur la terre, tes ambassadeurs. Et nous voulons aussi assumer cette mission en étant des intercesseurs. Alors voilà, nous te remettons d'abord notre communauté, toutes celles et ceux qui sont malades, qui ont des maladies et des souffrances encore dans leur corps. Nous sommes encouragés par le témoignage d'Alain Marc et fortifiés par ce témoignage. Nous te demandons d'être avec ces personnes qui souffrent et de les garder dans leur cœur, surtout dans leur cœur et aussi dans leur corps, que tu leur gardes la vie et Seigneur, qu'à travers ces épreuves, tu les conduises au plus près de toi-même. Nous remettons les personnes isolées. Nous pensons beaucoup à Rosemary qui traverse de grandes épreuves, de grands bouleversements dans sa vie. Et toutes celles et ceux qui l'entourent, Seigneur, que tu les fortifies aussi. Nous voulons penser à toutes celles et ceux qui sont en vacances, te demandant de leur donner du repos, du vrai repos profond, Seigneur. Et que ces vacances soient aussi des occasions peut-être pour reconnecter avec toi autrement, que tu leur donnes de contempler tes œuvres, ta nature, ta générosité, de te trouver dans la paix. Et Seigneur, voilà, nous te remettons toute notre Église, toutes nos communautés sœurs aussi, catholiques et protestantes, des villages voisins, te demandant de les bénir et de renouveler toujours plus en eux la présence de l'Esprit qui donne la vie. Te remettons nos municipalités, te demandant de donner de la crainte à nos élus, afin qu'ils servent justement leurs concitoyens. Te remettons, voilà, la France, les églises françaises, les lois qui se profilent à l'horizon, à l'échelle européenne, où, Seigneur, n'augure pas forcément des bonnes relations avec les autorités de l'État, mais toi, tu nous garderas et tu nous feras traverser toutes les épreuves qui se présenteront à nous. Et Seigneur, nous te demandons de garder nos élus de la corruption, du mal, du désir de puissance et de domination. Et que là aussi, Seigneur, tu les attires à de plus hautes vertus, à quelque chose qui te ressemble beaucoup plus pour servir et être grand dans le service, Seigneur, et le don de soi. Tu remets cette guerre en Ukraine, te demandant de conduire toutes les nations à négocier la paix. À négocier la paix, Seigneur. La guerre n'apporte que souffrance et elle est tout le temps très intéressée par les puissants et peut se soucier réellement de ceux qui souffrent et qui feront les frais, Seigneur, de ces guerres. Que tu apportes ta paix. Et nous terminons cette prière d'intercession avec la prière que tu nous as donnée et d'une même voix nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.